Avec Sounou Assurance, qui vous accompagne en vacances, au bureau, au village, à la maison, où que vous soyez, pour que 2021 soit une année digitalement excellente. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Fissuré, dédoublé, mou, blanc, jauni, incarné, verni, limé, rongé. Une émission pour vous parler des ongles, des différentes maladies qui peuvent les abîmer, en modifier l'aspect, mais aussi de la façon d'en prendre soin, de les couper, donc de les soigner. Quel traitement lorsqu'une infection rend le pourtour de l'ongle douloureux, lorsqu'il épaissit et change de couleur, lorsqu'après un choc, un hématome se forme sous l'ongle. Savoir rester attentif à l'aspect de nos ongles qui peuvent nous révéler certaines carences, repérer certains signes là qui doivent pousser à consulter sans délai. Hygiène des mains, hygiène des pieds, hygiène des ongles. L'ongle, cette couche cornée de la peau au bout des doigts, on le comprendra au cours de cette émission, eh bien ils sont tout sauf partie négligeable de notre anatomie. Et si vous avez des questions à nous poser sur la santé des ongles comme sur les soins pour améliorer leur allure, c'est le moment. 33 1 84 22 75 75 ou bien sûr sur la page Facebook de l'émission. Et cette petite couche cornée, elle vous occupe. Vous y avez consacré plus de 300 pages dans l'ouvrage « Vos ongles, tout un monde » publié chez Actes Sud. Docteur Sophie Guttmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue chirurgienne spécialisée dans les pathologies de l'ongle. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Cameroun le docteur Odette Berlin-Siga, elle est dermatologue, vénérologue à l'hôpital La Quintini de Douala, et elle est aussi secrétaire adjointe de la SOCADERM, c'est la Société Camerounaise de Dermatologie. Et puis en fin d'émission, on va retrouver la chronique du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Alors, docteur Sophie Guttmann, votre spécialité dans la spécialité, c'est l'onycologie, un mot que l'on a très rarement l'occasion d'entendre. Je l'ai d'ailleurs appris ce mot en vous lisant. Pourtant, c'est ce que vous expliquez dès le début de votre livre. Bébé, enfant, adulte, à tous les âges de la vie, l'ongle peut nous jouer des tours. Donc, tout le monde est concerné. Et pourtant, un paradoxe, on connaît mal nos ongles. Comment vous l'expliquez?
Alors, effectivement, tout le monde au cours de sa vie, pratiquement tout le monde aura un problème d'ongle. Et on peut avoir un problème d'ongle bébé jusqu'à la fin de la vie. Il n'y a pas d'âge pour avoir un problème d'ongle. Il y a beaucoup de maladies qui se localisent sur l'ongle. Et entre les traumatismes, les problèmes liés aux cosmétiques mal utilisés, aux problèmes des maladies propres à l'ongle, et plus tout ce qui peut s'y localiser comme maladie à la fois de la peau et maladie générale, c'est très très fréquent.
Est-ce que vous iriez jusqu'à parler de négligence par rapport à ces ongles?
C'est-à-dire
Les gens finalement pensent que c'est pas vraiment grave, on n'a pas vraiment à s'en occuper parce qu'on ne risque rien finalement.
En fait, lorsqu'on a des ongles en bonne santé, on ne se rend pas compte de l'importance de la santé des ongles pour notre bien-être. Mais le jour où ça arrive, effectivement, on prend conscience de l'importance des ongles, que ce soit aux mains ou aux pieds.
Ça peut vraiment perturber le quotidien complètement.
Des ongles abîmés aux mains, ça retentit sur notre émotionnel, sur notre relation aux autres. Donc c'est très compliqué. Et aux pieds, on marche avec nos pieds.
Oui, c'est vrai,
quand on est, vous n'avez pas tort. Quand on n'est pas heureux dans ses chaussures...
Mal dans ses baskets, on dit.
Voilà.
Une certaine méconnaissance, pas forcément négligence, parce qu'il y a un côté culpabilisant qui n'est pas très intéressant. Alors, ça contraste avec la passion dans ces lignes que vous avez écrites, ces pages, ces 300 pages. Comment est-ce qu'on en vient à se consacrer exclusivement aux ongles sur le plan de la santé que certains considèrent un petit peu comme secondaire? Comment vous, médecin, vous avez dit un jour, est-ce que vous avez choisi les ongles, ce sera mon occupation principale privilégiée?
Bien, j'ai choisi de faire dermatologie après un parcours différent. Et en étant interne en dermatologie, effectivement, je me suis rendu compte que les maladies des ongles étaient mal connues et que les gens en souffraient beaucoup. Et oui, j'ai pris cette décision.
Et puis on voit en lisant justement que bien sûr, il y a la santé, mais il y a aussi l'esthétique, l'histoire. On a considéré différemment à travers les époques ces fameux ongles. Il y a même des pratiques magiques associées aux ongles ou d'autres pratiques occultes. Est-ce que justement vous aviez conscience de toute cette diversité en vous lançant dans cette écriture? Vous y étiez déjà depuis longtemps intéressé?
En me lançant dans l'écriture
du livre, oui.
Je savais, alors bien sûr, j'ai approfondi mes connaissances, obligatoirement, hein, mais je savais que l'ongle avait fait l'objet de superstitions et de fausses croyances au cours des siècles.
Alors, les atteintes, elles peuvent atteindre concerner plusieurs formes, modifier l'allure de l'ongle, sa couleur. Est-ce qu'elles sont en général diagnosticables à l'œil nu ou il faut aller plus loin, par exemple, faire des prélèvements ?
Alors, c'est une spécialité très clinique où l'œil et le regard est très important. Il y a autre chose qui est très important, c'est le dialogue et l'écoute du patient, parce que l'histoire de la maladie et prendre la personne dans sa globalité est très importante pour le diagnostic des maladies des ongles, comme pour toutes les spécialités d'ailleurs. Donc l'interrogatoire, l'examen clinique, avec quelqu'un, enfin, pour un médecin qui a l'habitude, on va dire que dans 80% des cas, le diagnostic est fait. Après, on peut être aidé par des examens comme des prélèvements mycologiques, des biopsies, des examens de la kératine. Bien sûr, il y a des examens complémentaires qui peuvent nous aider.
Pour, par exemple, distinguer l'agent pathogène qui est en train d'abîmer l'ongle.
Alors, en cas de suspicion de mycose, je le dis quand même, attention, toute atteinte des ongles n'est pas une mycose, ce qui est une fausse croyance. Seulement 40% des atteintes des ongles sont des mycoses environ. Alors, bien sûr, ça dépend des régions. Mais globalement, on va dire qu'à peu près 40% des atteintes inguéales sont des mycoses. Mais donc, ça veut dire qu'il reste 60% de maladies qui ne sont pas des mycoses. Donc, on doit faire la preuve de la mycose, donc faire un prélèvement, identifier le microbe avant de démarrer un traitement.
Cette confusion, on la retrouve chez le patient qui va un petit peu aller vers l'automédication ou y compris chez certains médecins qui ne vont pas aller trop loin dans leurs investigations. Peut-être que c'est difficile de mettre en cause des confrères, c'est pas du tout l'objet. C'est est-ce que justement, il faut se poser la question justement dans l'interrogatoire, dans l'examen clinique, voire même dans le prélèvement pour distinguer, eh ben, on va dire, une mycose, par exemple, d'un psoriasis.
Il faut se poser la question. Et quand on n'a pas l'habitude d'examiner des ongles, avoir les prélèvements faciles.
Faire des prélèvements pour vraiment aller vers le bon diagnostic. On va rester dans l'aspect pratique, si vous voulez bien, docteur Gutmann. C'est important parce que les ongles, ça pousse tous les jours. Une trousse, un kit à ongles idéal, grand public, économique, à vos yeux, de quoi est-ce qu'il est constitué ? Il faut avoir quoi pour bien prendre soin de ses ongles ?
Surtout, rien pour refouler les cuticules.
Alors, le bâtonnet, le fameux en bois authentique, etc., en bois bio, on évite.
La cuticule, elle sertit l'ongle et les ligaments, et elle protège la région de la matrice de l'ongle qui est située sous le repli de peau. Donc, c'est vraiment un joint d'étanchéité.
J'aime bien que vous utilisiez cette formule de plomberie. On voit bien quand il y a des fuites et quand il y a justement les microbes qui vont se glisser
dessous,
et créer des sortes de moisissures.
Mais tout, pas que des microbes. Mmh. Alors, c'est vrai des bactéries, des champignons, mais des substances étrangères qui peuvent déclencher des phénomènes allergiques. Donc, c'est très important de respecter la cuticule. Dans la trousse, pas d'instrument pour refouler la cuticule. Une lime à ongles en carton, ça c'est bien. Éventuellement, une petite pince à ongles. Des huiles végétales ou des crèmes hydratantes pour masser l'ongle. Un petit tissu pour pousser un petit peu cette cuticule vers le haut, mais sans la décoller, sans la couper et sans appuyer dessus violemment.
Surtout, pas agresser, ni les bords de l'ongle quand on coupe un petit peu trop fort avec le fameux coupe-l'ongle, la clic-clic, ni repousser en créant des petites peaux sèches.
En fait, je parle des ongles de main. Pour rétrécir les ongles de main, l'idéal, s'ils sont très longs, c'est un petit ciseau arrondi et ensuite la lime. Et s'il n'y a pas grand-chose à couper, la lime en carton suffit de droite à gauche, de gauche à droite, plutôt que de bas en haut.
Voilà. Et votre spécialité, il y a le grand écart entre le conseil pratique et puis vous êtes chirurgienne, donc aussi la précision lors de ces interventions. Est-ce que vous avez souvent des patients qui se montrent réticents quand vous leur parlez de chirurgie de l'ongle ? Ils ont une forme de retrait. Est-ce qu'on a tout ça dans notre forme d'inconscient ? Ne touchez pas à mes ongles.
En fait, oui. Beaucoup de patients ont cette réaction. Mais je trouve qu'avec le temps qui passe, de moins en moins.
Pourquoi ? Parce que les gens ont l'habitude de se faire davantage toucher les ongles, peut-être avec la vogue des manucures, etc.
On fait beaucoup plus de chirurgie de l'ongle qu'avant, je pense. Et elle est plus connue.
Elle est plus connue, précisément. Dans quel cas, vous diriez, bien sûr, on ne peut pas faire de généralité, mais ce geste chirurgical, il s'impose pour l'ongle ? Des atteintes particulièrement graves ou des atteintes qu'une pommade, qu'un produit, qu'un antiseptique ne suffira pas à résorber ?
La chirurgie longue peut être utile pour faire une biopsie, pour aider à un diagnostic difficile. Elle est aussi importante pour traiter parfois l'ongle incarné quand le traitement médical n'est pas suffisant. Elle est importante pour retirer une tumeur, parce qu'il y a des tumeurs sur les ongles et même des tumeurs graves. Elle est importante pour réparer des séquelles de traumatisme, pour réaxer un ongle dévié à, suite à un traumatisme ou chez l'enfant suite à une malformation.
Donc, il y a tout un tas de gestes qui s'imposent.
Beaucoup de gestes.
Dans ce livre, hein, Vos ongles, tout un monde, j'aimerais que vous racontiez, il y a une magnifique anecdote qui se passe dans le métro. Et vraiment, c'est un beau moment de médecine, c'est un beau moment de relation humaine. Et j'aimerais que vous racontiez ce qui s'est passé, parce que moi, quand je l'ai lu, j'étais émue. Peut-être que je ne regarderai plus les mains des gens dans le métro de la même manière, mais racontez-nous.
Oui, je raconte beaucoup d'histoires dans mon livre, parce que c'est plus vivant. Effectivement, l'histoire de ce monsieur que j'ai rencontré dans le métro, l'histoire est particulière, puisque je prenais le métro un jour, pas du tout en tenue de médecin, j'avais même une guitare dans le dos, j'étais pas forcément coiffée comme un médecin. Et je rentre dans une rame de métro. J'hésite à m'installer à droite ou à gauche. Finalement, j'opte pour la gauche parce qu'il y avait un peu plus de place. Je m'appuie, je me tiens avec la main droite sur la barre métallique. Et en fait, j'étais en train de lire une partition. J'apprenais les paroles de la chanson. Et mon regard allait de droite à gauche, le bercement de la rame. Je chantais la chanson dans ma tête. Et en fait, mon regard a balayé les gens qui étaient assis devant moi. Et là, il y avait un monsieur qui lisait un journal. Et j'ai vu un ongle noir, j'ai vu un mélanome de l'ongle. Mmh.
Diagnostic dans les transports en commun.
Tout de suite, oui. Et donc là, en fait, c'est très compliqué. Hein. Mmh. Vous êtes dans le métro, il faut se dépêcher. Vous ne savez pas à quelle station il va descendre. Vous descendez bientôt, vous vous dites affolé, mais je lui dis pas. Mais
le diagnostic est loin d'être anodin. Hein. Ça peut changer son quotidien.
Donc en fait, c'est évident. Il faut le dire, évidemment. Donc il faut le dire élégamment. Il ne faut pas agresser les personnes. C'est quand même compliqué d'aborder quelqu'un pour lui dire, monsieur, j'ai vu votre ongle. Voilà, je n'en ai pas l'air, mais je suis médecin spécialiste des ongles, même si je ne ressemble pas à un médecin maintenant, mais est-ce que vous voulez qu'on en parle? Et en fait, ça a été salvateur pour ce monsieur.
Et il s'est soigné.
Mais il est guéri, il va très bien.
Voilà. Il y a aussi des belles histoires dans Priorité Santé. C'est pour ça qu'aussi, on donne la parole à nos auditeurs et à nos auditrices pour écouter tout ce qu'ils ont à nous dire. Et c'est tout de suite.
Allô? Priorité Santé. Sur RFI.
Et c'est de bouc à vous, cette ville qu'on connaît bien à Priorité Santé. On y était il y a 9 mois environ, hein. Toute l'équipe était là-bas. On retrouve Didier sur place. Didier, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors racontez-nous, hein. Le docteur Gottman est à votre écoute. Racontez-nous pourquoi vous avez tenu à participer à cette émission consacrée aux ongles.
Oui, Caroline, j'ai dit bonjour à tout le monde. Et en fait, j'ai voulu participer parce que j'ai une question qui me tourmente souvent. Mm-hmm. Et ça concerne le fil. Et je me retrouve souvent en train de me ranger les ongles et cela arrive souvent quand je suis concentré. Mm-hmm. Et là, je me demande, est-ce qu'il y a une maladie par rapport à ça? Mm-hmm. Une maladie qui fait que l'on range les ongles. Alors, la deuxième préoccupation, c'est de savoir, est-ce que le fait de ranger les ongles ont-ils un effet négatif par rapport à ma santé future? Mmh. Et ma troisième préoccupation était de savoir si le fait de le faire en même temps que je suis concentré sur quelque chose qui ne m'oblige pas à utiliser le nez. Par exemple, je suis un film, je lis un bouquin sur ma machine. Et c'est ça a un impact.
Didier, là, ce que vous êtes en train de me dire, j'ai du mal à comprendre. Articuler si c'est possible un petit peu davantage. Votre dernière question, c'est quoi? C'est sur quand vous faites certaines activités, vous avez particulièrement tendance à vous ronger les ongles, c'est ça?
Oui. Surtout quand je lis un bouquin, donc quand je lis un bouquin, j'ai publié sur ma machine. Donc, les activités qui ne demandent pas l'utilisation de mains.
D'accord. Quand vous êtes concentré, par exemple, en train de lire, vous avez tendance à vous ronger les ongles. Avant de donner la parole au docteur Gottman, j'ai juste une petite question. Vous rongez les ongles depuis que vous êtes tout petit?
Oui, c'est depuis que je suis tout petit et je l'ai constaté. Alors que j'ai grandi, souvent mon entourage me disait, mais pourquoi tu te ronges les ongles?
L'entourage vous critiquait à cause de ça. Est-ce qu'on peut parler pour autant, docteur, d'une maladie, cette manie de se ronger les ongles? C'est très fréquent.
C'est plutôt une manie et dans de rares cas, ça s'intègre dans des troubles obsessionnels et compulsifs, mais souvent c'est une manie. Déjà, je voudrais rassurer Didier, ce n'est pas grave de se ronger les ongles. Il y a énormément de gens qui se rongent les ongles et la culpabilisation, vraiment non. Mmh. Donc bon, il aimerait visiblement se défaire de cette habitude. C'est vrai que c'est difficile, d'autant plus qu'elle est ancienne. Il demande si il y a des répercussions sur la santé. Alors, sauf cas exceptionnel, non. En général, les problèmes dentaires ou les problèmes d'articulation de la mâchoire, c'est vraiment très rare. Par contre, parfois, en rongeant ses ongles, on peut arracher une petite peau autour de l'ongle et déclencher un panari. Il est vrai aussi que si on ronge très court ses ongles, on abîme le lit de l'ongle. Le lit de l'ongle, c'est cette peau rose que l'on voit à travers l'ongle et sur laquelle l'ongle colle. À force de dégarnir le lit et de le grignoter, il se transforme en peau. Donc, quand les ongles repoussent, après, ils ne se collent plus. Ils apparaissent décollés plus tôt. Mais bon, c'est pas forcément catastrophique.
Il y a peut-être aussi les problèmes liés à l'hygiène. On va dire, certaines régions, quand il y a un petit peu d'alerte Covid, on dit qu'il y a le portage par les mains des microbes à la bouche, des virus à la bouche. On fait attention en général, mais là, c'est plus sur comment se débarrasser de cette mauvaise habitude. Certains utilisent des vernis. Vernis amers, vous en pensez quoi?
Alors, il faut les mettre au moins deux fois par jour. On commence. Il y a des personnes qui s'habituent au goût. Et surtout, c'est astreignant, c'est très astreignant. Et souvent, on arrête. Alors, moi, j'ai un petit traitement à vous suggérer. C'est le port de pansements, de petits pansements, des petits pansements légers. On met, par exemple, deux ou trois doigts sous pansement. On porte des pansements en permanence à la base de l'ongle et sur l'ongle, mais sur deux ou trois doigts seulement. Et on ne touche plus ces doigts-là. On continue de dévorer la kératine des autres ongles, c'est pas grave. On garde deux ou trois doigts qu'on laisse en paix. Et puis, plusieurs semaines plus tard, on va dire deux, trois mois plus tard, les ongles qui ont été mis sous pansement ont repoussé, sont jolis. Alors là, c'est vrai qu'on compte quand même sur sa volonté pour pas les réattaquer.
Ça motive.
Et on change et on passe les pansements sur d'autres doigts. Et on essaye de les récupérer tous. Et puis parfois, on n'en laisse qu'un. Je conseille l'auriculaire pour déchaîner ses pulsions.
Petite auriculaire qui va subir les choses pour les autres. En tout cas, Didier, voilà pour ces conseils pratiques. On vous souhaite une excellente journée à Bukavu. On va partir pour l'autre Congo, le Congo Brazza, où on retrouve Enacha. Enacha, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Alors racontez-nous, vous, le problème, ce sont des ongles incarnés, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. En fait, j'ai un problème avec les ongles incarnés. Dès que mes ongles poussent, ils s'incarnent. Et je suis obligée de faire une manucure une à deux semaines. Après, une semaine ou encore deux semaines après.
Alors, excusez-moi, Enacha, mais vous faites bien un soin des pieds. Là, vous parlez des ongles de vos orteils qui vous obligent à aller voir un praticien. C'est dans un salon, ces soins, ou c'est auprès d'un praticien, on va dire, médical? Comment ça se passe?
C'est dans un salon, en fait.
D'accord.
Devant un praticien. Et j'ai même du mal à porter des fers fermés parce que tellement ça. Il y a une inflammation aussi de fois quand je laisse un peu couler pendant trois semaines et il y a même déjà. Je sens l'inflammation.
Et entre deux pédicures, Enacha, c'est vous-même qui vous coupez les ongles de pied?
Oui, c'est moi-même.
Alors, docteur Gottman, qu'est-ce que vous pouvez dire à Enacha, donc qui, on va dire, des ongles incarnés récidivants?
Alors, ce qui me surprend, c'est qu'elle a visiblement les gros orteils et les petits orteils atteints, puisqu'elle dit que c'est tous les ongles des orteils. C'est assez rare, en général, l'ongle incarné touche plutôt les gros orteils. Donc, je me demande si elle ne coupe pas les ongles en biais. J'ai fait un joli dessin dans mon livre pour bien montrer l'importance de la coupe des ongles des orteils qui prévient l'ongle incarné. Il faut laisser les angles en place afin de maintenir les chairs. Ce qui arrive, c'est que quand on coupe en biais, la chair se resserre. Quand l'ongle revient, il l'embroche.
Il la coupe, oui.
Il rentre dedans. Donc ça s'enflamme, ça fait mal. Et qu'est-ce qu'on fait? On recoupe encore plus court. Et finalement, on coupe de plus en plus court et les chairs se referment de plus en plus. Je crains que ce soit ce qui lui arrive. Donc là,
on peut revenir en arrière?
Ma consigne, ça serait, la prochaine fois, c'est d'essayer de laisser repousser l'ongle et au lieu de le recouper sur le côté, d'essayer de glisser des petites mèches de coton dessous pour en fait soulever l'ongle et lui permettre d'avancer un petit peu.
pour justement
pour arriver, essayer d'arriver à ce que l'ongle reprenne toute sa longueur et se réinstalle sur la totalité de l'extrémité de l'orteil.
Alors attention hein, quand on coupe, hein, ne pas aller trop loin justement pour éviter ce genre de déconvenu. Voilà NHA pour ce conseil. Excellente journée à Brazza. La RDC, on y retourne. Kinshasa, on a Julia Britney en ligne. Bonjour Julia.
Bonjour Caroline, bonjour Madame Soucy.
Bonjour. On est à votre écoute, allez-y.
Oui, j'ai l'habitude de mettre de faux ongles. Et maintenant, cette fois-ci, j'ai mis des faux ongles qui ont duré plus d'un mois. Et là, j'étais obligée de les enlever par force parce que ça m'est fatiguée. Sans que ça n'enlevait pas, apparemment, la colle était vraiment trop dure. Ça a pris plus d'un mois. Et là, je l'ai forcé de l'enlever. Après, j'ai remarqué que les ongles sont devenus trop légers. Et puis, c'est difficile de faire, de différencier l'ongle et la peau qui se trouve entre le doigt, les ongles et la chair. C'est difficile. Il y a une épaisseur là entre les ongles et la peau. Et je ne sais pas si les ongles vont redevenir normales. Ça se casse, ça ne repousse plus et ça colle à la peau.
Mmh. Très, très fin, très ramolli. Ces faux ongles, vous les posez vous-même, Enacha, ou c'est quelqu'un qui vous les met en salon?
Non, c'est quelqu'un qui me les met en salon.
Avec de la colle?
Oui.
Avec de la colle. Docteur Gottman, vous avez suivi justement avec attention ce qu'a dit Enacha. Vous en tirez quoi comme conclusion?
C'est Julia. Alors,
Julia.
Ce que j'aimerais dire, c'est que ses ongles maintenant sont amincis. À mon avis, quand elle a enlevé les faux ongles, la colle, qui est en général une colle type cyanoacrylate, est très solide et elle a probablement enlevé avec la colle les couches superficielles de son ongle, donc il reste maintenant aminci. Julia, je vous rassure, dans 6 mois, vous aurez de nouveaux ongles. Donc c'est transitoire. Effectivement, il faut le savoir, les cosmétiques peuvent poser des soucis, mais c'est souvent la pose et la dépose, plus que les produits eux-mêmes, qui donnent des ennuis. Ça veut dire qu'avec un bon mode d'emploi des cosmétiques, on doit pouvoir utiliser les produits avec un maximum de sécurité. Et là, je pense que c'est en retirant les faux ongles. Les allergies à la colle cyanoacrylate sont possibles. Alors là, j'ai un tout petit doute puisqu'elle dit qu'elle a une épaisseur en dessous. Donc c'est vrai, quand on a une allergie à la colle cyanoacrylate, on peut avoir des épaisseurs en dessous. Moi, dans son cas, ce que je ferais, je mettrais des huiles végétales pendant au moins 2-3 mois. Dans 2-3 mois, il y aura à peu près la moitié de l'ongle qui aura repoussé. Vous pourrez recommencer à mettre du vernis et plutôt du vernis standard.
Et plutôt éviter les faux ongles dans les mois qui viennent, le temps que ça se répare.
Là, je pense qu'il faut que l'ongle se renouvelle et un ongle de main se renouvelle en 6 mois. Donc, dans 6 mois, elle aura un nouvel ongle.
Est-ce que justement, Julia, vous êtes moins inquiète après ces conseils de dire que votre ongle y va revenir et que cette déconvenue, eh bien, c'est juste pour un petit moment, c'est un petit mauvais moment à passer, on va dire. Julia, est-ce que vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis là, je disais merci pour les conseils, mais moi j'étais inquiète parce que la peau et l'ongle sont vraiment collés, il n'y a pas de différence.
C'est parce qu'il n'y a plus d'ongles en
c'est
fait.
C'est parce qu'il n'y a pratiquement plus d'ongles. Mm-hmm. Il faut que vous soyez patiente. Mm-hmm. Et puis c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à comment utiliser les cosmétiques.
Et ça veut dire aujourd'hui qu'il y a cette forme de blessure, pas question d'y recoller un ongle en ce moment.
Ah non, là c'est pas possible.
Mais là c'est sûr, hein, c'est sûr.
D'ailleurs, vous avez vu dans mon livre, je raconte une histoire d'une personne comme ça qui a fait un petit peu des bêtises en appliquant des faux ongles de façon violente et qui a eu, voilà, ça arrive, mais laissez passer un peu de temps, l'ongle va repousser.
Il faut de bons conseils et puis oui, que ça se repose tout simplement, c'est normal, pour que ça reprenne une allure normale. Julia, excellente journée à Kinshasa. On part pour le Bénin, à Bomekalavi, avec Christa qui est en ligne avec nous et qui a une question. Bonjour Christa.
Bonjour Madame Caroline. Bonjour les plateaux.
On est à votre écoute, allez-y.
Bonjour.
Allez-y.
Bon, mon problème, c'est que j'ai cogné mon pied droit. Quand j'étais au bureau, je l'ai cogné au canapé. Et depuis que je l'ai cogné, ça fait déjà 3 ans que ça s'est passé. Là où l'ongle est cassé, à chaque fois que l'ongle se renouvelle, ça se casse toujours là, à cette partie-là. Et il y a une tache noire qui est sur l'ongle et qui ne passe jamais. Et ma question, c'est... Pourquoi il y a les cassures des ongles à chaque fois que j'ai mes ongles qui poussent, ça se casse à chaque fois.
Christa qui s'interroge, on va dire, sur cette forme de cicatrice.
Est-ce que c'est une cassure longitudinale ou transversale?
Est-ce que c'est sur le sens de la largeur ou est-ce que c'est sur le sens de la longueur?
Non, verticale.
D'accord.
Verticale.
Alors, quand vous avez heurté votre orteil, il est possible que votre matrice de l'ongle, à un endroit, ait été endommagée et que maintenant vous ayez une petite cicatrice sur la matrice, sous la peau là-haut, ce qui fait que la partie d'ongle fabriquée par la matrice à cet endroit-là est défaillante. Donc la première chose pour ça, je vous conseillerais de ne pas couper votre ongle ni au coupe-ongle, ni au ciseau, ni à la pince à ongles, mais de le rétrécir à la lime, parce que sinon à chaque fois que vous le fracturez brutalement avec un instrument, vous fragilisez cet endroit. Donc déjà, utilisez maintenant exclusivement la ligne. Quant à cette tache noire que vous avez eue, je pense qu'initialement, vous avez eu un hématome. Et puis, comme vous me parlez d'une tache qui est toujours là 3 ans après, déjà, je pense que il est possible que ce soit des hématomes qui se renouvellent, parce que vous, peut-être que sans faire attention, vous retraumatisez votre orteil, mais il est également possible que vous ayez aussi une petite cicatrice du lit de l'ongle, de cette peau sous l'ongle qui est faite pour coller à l'ongle, qui se serait transformée en peau, et donc votre ongle ne colle pas. Et si votre ongle ne colle plus, en fait, il y a de l'humidité, de la macération en dessous, et ça entraîne une surinfection par ce qu'on appelle le bacille piocyanique, qui est un petit microbe tout vert. Je raconte plusieurs histoires dans mon livre de patients qui ont ce problème-là. C'est un problème très fréquent. En retirant son vernis, l'ongle est vert, noir-vert, et c'est en fait un décollement qui s'est... C'est pas grave.
Non. Et ça se résout comment?
Oui, ça se résout, on va voir, qui s'est surinfecté par
ce microbe. Parce que c'est là où on utilise le trombone?
Non. Le trombone, c'est pour l'hématome. Ça, en fait, il faut, c'est le séchoir à cheveux, si on en a un. Il faut, en fait, si possible, si l'ongle est bien décollé, le découper en partie, découper cette partie noire verte. Couper un ongle décollé ne fait pas mal puisqu'il n'est pas attaché. Donc, même si effectivement on a l'impression de rentrer vers la chair, en fait, ça ne fait pas mal. Donc, couper l'ongle décollé et surtout le sécher, parce que c'est l'humidité qui favorise la persistance de ce microbe sous l'ongle.
Et vous expliquiez justement à quel point l'ongle est perméable. Donc, il faut faire bien attention à sécher ses ongles et à éviter justement que l'eau ne puisse entrer entre les deux couches.
Alors, quand un ongle est décollé, effectivement, s'il est mouillé tout le temps, il ne se recolle pas.
Donc, ce conseil, Christa, premier conseil très simple, limer ses ongles. Et s'il y a justement une sorte de petite infection, c'est ça sous l'ongle, faire bien attention à l'hygiène pour éviter la macération. Très bonne journée au Bénin. Dernier auditeur, c'est Jean qui est au Burkina, à Koudougou. On vous retrouve, Jean, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour à toute l'équipe des priorités santé de ce matin.
Alors, on écoute votre témoignage et votre question, allez-y.
Ok, effectivement, en 2018, j'ai fait un panari et ça a évolué jusqu'à former un abcès. Je me suis rendu un peu tardivement à l'hôpital au bout de 7 jours comme ça. J'ai fait des soins, ça a guéri. Maintenant, après guérison, l'ongle a pris une forme particulière. Et ça, si ça pousse, ça n'arrive pas au bout. J'aimerais comprendre pourquoi c'est ainsi, pourquoi au bout de 2 ans, l'ongle a toujours cet aspect. Et en deuxième lieu, j'aimerais demander s'il y a des moyens pour me permettre de retrouver l'aspect normal de mon ongle.
Alors, question très intéressante de Jean, docteur, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Alors, Jean a eu un panari, donc il est possible que sa matrice de l'ongle ait été infectée. La matrice de l'ongle, c'est sensible à l'infection et elle a pu être endommagée, ce qui peut générer effectivement une anomalie de l'ongle qui parfois est définitive. On va dire que il arrive qu'après un panari, l'ongle étant abîmé pendant quelques mois, on prenne aussi l'habitude d'agacer l'ongle avec les autres doigts et finalement, sans s'en rendre compte, on le traumatise un petit peu, voire très souvent. Et je vois ce qu'on appelle des onychotylomanies, c'est-à-dire l'équivalent pas de se ronger les ongles, mais de manipuler ses ongles, déclenchés par les anomalies qui ont laissé le traumatisme pendant quelques mois sur l'ongle, on prend vite un tic d'agacement. Et parfois, vous voyez des personnes 10 ans ou 15 ans après un panari ou un traumatisme qui vous disent « Ah, bah, j'ai une séquelle ». Et en fait, non, il n'y a pas de séquelle. Il y a juste qu'il y a un tic maintenant qui est d'agacer l'ongle et sa matrice et qui, en fait, laisse une dystrophie, mais que ce n'est pas une séquelle. Donc, il faut que j'en vérifie que... il ne manipule pas son doigt sans s'en rendre compte, inconsciemment, et qu'il n'abîme pas l'ongle qui pousse. si effectivement ils ne... Donc pour ça, moi, je fais porter un pansement. Parce que quand on porte un pansement sur son doigt,
on se rend compte beaucoup plus
on
vite.
Se rend très vite compte si oui ou non on traumatise le doigt.
Parce que des fois on peut le faire absolument inconsciemment.
Mais totalement inconsciemment. Mm-hmm. Donc porter un pansement au moins un mois en permanence sur la base de l'ongle et voir si le pansement dérange.
Et la deuxième partie de sa question, c'est est-ce qu'il y a moyen de revenir justement à l'ongle initial, à la forme initiale de ce doigt ?
Alors, sans voir le doigt bien de sûr, Jean, c'est difficile. Mm-hmm. Parfois, une chirurgie peut améliorer une amélioration. Souvent, si c'est une séquelle, souvent on ne peut pas faire grand-chose.
Parce que là, on est à la cicatrice.
Parce qu'en fait, la matrice est endommagée, il manque un morceau de matrice, et donc il manque un morceau d'ongle. Mais il y a, je ne peux pas vous répondre comme
bien
ça,
sûr,
parce qu'il y a des cicatrices qui peuvent s'améliorer chirurgicalement, mais sans voir, c'est compliqué.
Bien sûr, c'est compliqué. En tout cas, Jean, vous souhaite une bonne journée au Burkina. Réponse, bon geste, bon conseil. Et avant de rejoindre le Cameroun, on va marquer une petite pause en musique tout de suite avec Youssoupha, les sentiments à l'envers.
Sentimental, je me cherche un refuge, un pas en avant et soudain tu recules. Je suis fébrile et parfois c'est terrible, ton amour me guérit ou peut-être qu'il me tue. Je préfère les petites causes aux grandes charités, je préfère les grands défauts aux petites qualités. À force de vivre et puis à force de fuir, toutes les choses qu'on esquive finissent par arriver. Moi j'ai pas gagné grand chose à côté de vous, en vrai l'amour c'est surcoté de fou. Encore un leurre pour que les hommes pleurent, plombés par leurs erreurs, qu'ils ne tiennent plus debout. Si notre terre est ronde, faut vraiment que je la traverse, car c'est de mon côté qu'on a la tête à l'envers. À force de me perdre, j'essaie de remettre tout ce que je t'aime dans le bon sens. Les sentiments à l'envers. Comment j'étais avant nous deux? Étais-je heureux avant d'être amoureux? J'ai fait le tour de tes chansons d'amour. Pour moi, tout ce qui est lourd te paraît langoureux. Dans ma semaine, tous les jours sont dimanches. Aujourd'hui, la haine, demain, on se complimente. Bouger la tête et puis trouver la paix. Et puis toute ma peine sera ma confidente. J'ai tellement de choses à te dire que t'ignores. Y'a tellement de questions pour moi que tu portes. Te dire au secours avec de grands discours. Mais au final, je t'envoie un texte où tu dors. Pas besoin d'ennemis, mes amis me détestent. Pas besoin d'amis, t'es la seule qui me reste. À force de me perdre, j'essaie de remettre tout ce que je t'aime dans le bon sens.
Youssoupha sur RFI, on se retrouve dans Priorité Santé, nos sujets du jour. Les ongles, comment en prendre soin, comment les traiter, toujours en compagnie du docteur Sophie Guttmann, dermatologue, chirurgienne. Et comme promis, on part pour le Cameroun.
RFI à Douala, 97.8 FM.
Pour vous retrouver, docteur Odette Berlin-Siga, bonjour.
Oui, bonjour Madame Paré.
Vous êtes dermatologue vénérologue à l'hôpital La Quintini de Douala. Docteur, on va commencer avec peut-être ces motifs de consultation les plus fréquents dans votre service, donc dermatologie. Pour les ongles, on vient vous voir pour quel type d'atteinte?
D'accord, je voudrais aussi saluer le docteur Sophie Guttmann et saluer tous les auditeurs de Radio
bonjour.
France Internationale. Bonjour.
Bonjour.
Oui, voilà, j'exerce à l'hôpital La Quintini de Douala. C'est mm-hmm. un centre de référence au cœur de la ville de Douala et nous avons service de dermatologie.
Docteur Siga, excusez-moi de vous interrompre, on va vous donner la parole tout de suite. Est-ce que vous n'êtes pas sur le haut-parleur de votre téléphone?
Oui.
Parce que je vous sens un peu loin. Est-ce que vous pouvez désamorcer cet écouteur et me parler directement, parce que je pense que les auditeurs ont très envie de bien vous entendre et ce sera chose facile si vous parlez directement dans le téléphone.
Ok, d'accord, c'est fait.
C'est beaucoup mieux. Alors justement, on vient vous voir pourquoi, docteur ?
Voilà, généralement les pathologies des ongles, les onychopathies représentent chez nous moins de 2% des consultations mensuelles, mmh. quand même. Et parmi ces 2%, nous avons plus de 60% des patients qui consultent pour les affections fongiques, les onychomycoses. Et le reste de 40% de patients que nous recevons, ils viennent généralement pour des pathologies traumatiques comme les ongles incarnés. Et certains patients viennent aussi pour les maladies inflammatoires, le psoriasis, le lichen, que nous suspectons lorsqu'on retrouve d'autres symptômes au niveau de la peau. Et parfois, d'autres personnes peuvent se plaindre de fragilité des ongles, d'ongles cassants, Certains viennent pour des taches au niveau des ongles, mais ça c'est quand même un peu rare, mais il y en a quand même qui consultent pour des taches au niveau des ongles. Voilà, ça c'est plus ou moins ce que nous avons en consultation à l'hôpital à Quintigny.
Est-ce que vous devez aussi prendre en charge pas mal de cas liés à l'esthétique, ce qu'on appelle la beauté des ongles, surtout chez les femmes, docteur Siga?
Oui, par rapport à l'esthétique, oui, bien sûr, parce que la plupart des femmes qui consultent, la plupart des personnes qui consultent pour les ongles, généralement, ce sont des femmes aussi, ça il faut le dire. Et justement, c'est parce que l'ongle, c'est d'abord l'organe qui est vu, qui est le plus vu. Je veux dire, quand vous discutez avec quelqu'un, on voit d'abord vos ongles. Donc, du coup, lorsqu'il y a une déformation ou alors un décollement de l'ongle, la femme va se rendre à l'hôpital pour savoir ce qui se passe. Voilà, mais généralement ce sont des femmes qui vont consulter parce que elles ont eu à utiliser, ou alors elles sont des adeptes des faux ongles, des ongles artificiels, et ces ongles artificiels avec le temps ont fragilisé les ongles, rendent les ongles jaunâtres, ne sont plus jolis à voir. Ou alors il y a des taches qui apparaissent, ou alors il y a une inflammation du pourtour du ongle, c'est pour ces raisons qu'elles vont consulter généralement.
Et est-ce que, docteur, vous constatez un certain retard pour consulter? Est-ce que c'est vrai pour les atteintes de l'ongle? Est-ce qu'on va voir d'autres praticiens que le médecin, justement, pour essayer de se débarrasser de ce problème?
Oui, généralement, chez nous, déjà, le retard pour consulter, ça concerne presque toutes les pathologies. Parce que vous savez qu'en Afrique, à part la médecine moderne, il y a aussi la médecine traditionnelle. Donc, il y a beaucoup, vu que généralement les pathologies des ongles, ou alors comme les pathologies de la peau, comme ça ne fait pas mal, beaucoup vont traîner avant de se rendre à l'hôpital. Et certains aussi vont se tourner vers les praticiens ou alors vont se tourner vers les médecins du quartier ou alors des personnes au quartier qui se disent médecins. Et c'est comme ça qu'ils arrivent généralement à l'hôpital très très tard et avec déjà des séquelles.
Des complications. Vous avez constaté, docteur, dans votre pratique, que certains symptômes qui touchent l'ongle peuvent être le signe, le révélateur de maladies, on va dire, beaucoup plus générales, d'une prise en charge qui dépasse largement la dermatologie?
Bien sûr, à mesure où, par exemple, chez cette personne qui vient consulter pour une fragilité des ongles, des ongles très cassants. C'est chez ce genre de patients que nous faisons, on fait un bilan parce que ce genre de pathologie peut révéler par exemple une carence vitaminique, une carence en fer. Et parfois, au décours de ces petits motifs de consultation, si je puis m'exprimer ainsi, on peut aussi découvrir des pathologies plus graves comme les pathologies de la glande thyroïdienne. Donc, ça nous arrive parfois de faire ce genre de découverte fortuite comme ça. Et dans ce cas, on va référer le patient plutôt chez un endocrinologue pour la prise en charge de la pathologie sous-jacente.
Un dernier message à faire passer, docteur, si on veut justement se référer aux produits qu'on trouve communément dans votre région, le Cameroun, dans votre pays, les femmes par exemple ou les hommes qui en ont marre d'avoir des mains sèches, des peaux autour des ongles, ils peuvent utiliser quels produits qu'on trouve facilement et aussi qui sont pas trop chers?
Des produits qui ne sont pas trop chers. Bon, généralement, ici chez nous, en Afrique subsaharienne, il y a une plante, le henné, qui est un petit arbuste, dont les feuilles sont réduites en poudre, et ces feuilles produisent une teinte qui colore les ongles, qui peut être aussi utilisée pour les textiles. Mais c'est un produit qui est moins allergisant, parce que vous savez bien que tout ce qu'on utilise de nos jours, du point de vue esthétique, je veux dire, vu qu'on met beaucoup de faux ongles avec des gels, avec de la résine, ça peut créer des allergies. Ces produits sont moins allergisants, je veux dire, pour les femmes qui veulent forcément mettre du vernis. Et aussi, pour ce qu'on conseillerait vraiment, c'est d'accepter ces ongles naturels comme ils sont. Et de les entretenir tout simplement, de bien les limer, de bien les hydrater, de bien s'alimenter, parce que l'ongle aussi, c'est le reflet de notre alimentation, c'est le reflet de notre santé. Et voilà, de faire des manicures simples, juste limer l'ongle, masser l'ongle, utiliser, pour celles qui veulent forcément mettre des vernis, par exemple, utiliser d'abord des bases et éviter vraiment les faux ongles et les vernis permanents. Je pense que rien qu'en faisant ça, l'ongle est sain et il ne demande pas beaucoup un ongle, en fait, pour être normal.
Voilà. Un message pour le retour au naturel, le soin, l'hygiène. Merci beaucoup pour votre éclairage. Docteur Siga, je rappelle que vous êtes également secrétaire adjointe de la Socaderm, société camerounaise de dermatologie. On vous retrouve, docteur Gutmann, pour la dernière partie de cet entretien. On l'a entendu avec votre consoeur Inlong, c'est vraiment le révélateur, le miroir de notre santé. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne certaines carences.
Oui, la carence en fer, par exemple. Une carence en protéines, une carence en zinc. Pratiquement toutes les maladies peuvent donner des signes sur les ongles. C'est en ça que l'ongle est le miroir de notre santé. Mais il faut quand même le savoir, on peut être très malade et avoir des ongles normaux. Donc oui, des maladies peuvent retentir sur les ongles, mais ce n'est pas obligatoire.
Alors, par contre, sans effrayer les auditeurs, vous diriez c'est quoi les signes, docteur Gutmann, hein, vraiment, c'est peut-être ma dernière question, mais c'est essentiel. Les signes, les symptômes précis qui doivent pousser à consulter sans retard un signe sur l'ongle, quelque chose qui dit là, on ne perd pas de temps, on va voir un médecin et un vrai.
Alors, toute anomalie chronique inexpliquée d'un ongle, un ongle qui se soulève, qui se feint en dessous, une fissure, une espèce de verrue du repli, une drôle de tache. Toute lésion chronique d'un seul doigt ou d'un seul orteil qu'on ne comprend pas mérite de voir le dermatologue. Ça, c'est impératif car il y a des tumeurs sur les ongles. Le plus souvent, elles sont bénignes, heureusement, mais il y a des tumeurs malignes comme le carcinome et le mélanome. Et donc, c'est important. Quand on a la peau blanche, toute ligne noire qui s'élargit doit effectivement amener à consulter le dermatologue. Les lignes noires sont très fréquentes quand on a la peau pigmentée. On les appelle les mélanonychies ethniques. Ce sont de jolies lignes brunes et noires qui ornent les ongles. Il est vrai que les personnes à peau pigmentée sont habituées à en avoir. Quand une ligne que l'on connaît depuis longtemps, tout d'un coup, se modifie, il faut également absolument consulter, car si le mélanome est rare chez les personnes à peau pigmentée, il se localise souvent sur les régions non pigmentées, c'est-à-dire les paumes, les plantes et le lit de l'ongle. Donc même si on est a priori rassuré avec des lignes noires chez quelqu'un qui a la peau foncée, on se méfie de toute lésion qui se modifie.
Alors quand on a l'intérieur des mains et que tout à coup apparaît une tache qu'on ne connaissait pas...
Ah bah ça c'est effectivement un motif de consultation chez le dermatologue.
Merci beaucoup, hein, docteur Sophie Gutmann, d'avoir répondu à toutes nos questions, surtout les questions des auditeurs. Je rappelle le titre de ce livre, Touffu, documenté, enthousiaste, vos ongles, tout un monde, publié chez Actes Sud. Bien se porter, c'est aussi bien bouger, l'activité physique dans Priorité Santé. Jean-Marc Sen, docteur Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Aujourd'hui, vous allez nous répondre à une question. Quelle est la différence entre un kiné, un kinésithérapeute et un ostéopathe?
Mais oui, alors ces deux professions, c'est une question qui est très fréquente. Hein. On se demande souvent, mais c'est quoi la différence? Alors c'est vrai parce que c'est deux professions qui vont avoir des techniques manuelles et qui sont très anciennes et qui sont croisées quelquefois. Mais il faut retenir tout de suite que ce sont des techniques différentes, en tout cas des professions différentes, mais qui sont tout à fait complémentaires. Par exemple, le kinésithérapeute, eh bien lui aide à la cicatrisation des tissus, à récupérer, à se réapproprier le mouvement. Alors que l'ostéopathe va plutôt contribuer à rétablir une mobilité d'un mouvement afin de prévenir justement les pathologies. Retenir qu'en France, par exemple, la kinésithérapie est rentrée en vigueur et a été réglementée en 1946. L'ostéopathie, c'est beaucoup plus récent, c'est en 2002 que ça a été véritablement réglementé. Alors, si on voulait prendre une description imaginée, bah, ce serait la voiture. La voiture.
Allez-y, parce que là, je vois pas où vous voulez en venir, mais on va y arriver.
Et l'éclairage. L'éclairage de la voiture.
Ça s'appelle
et
une
le niveau
parabole.
D'éclairage. Voilà. Alors le kinésithérapeute, en quelque sorte, lui, si le niveau d'éclairage n'est pas tout à fait bon, eh ben, il manipulerait l'ampoule. Hein, est-ce qu'elle est bien vissée? Est-ce que finalement elle est bien fixée? Est-ce qu'elle est bien orientée? Voilà, ça serait une bonne chose. Alors que l'ostéopathe, lui, ferait une approche un peu plus globale. Il dirait mais voilà, les pneus arrière sont-ils sous-gonflés, ce qui modifie évidemment l'orientation du faisceau lumineux, etc. Il ouvrirait le capot, en quelque sorte. On va dire que l'un se concentre sur l'origine directe, le détail, et puis l'autre un peu plus sur la globalité. Donc voilà, pour comprendre le concept. La deuxième chose, c'est qu'ils ont des formations différentes. Hein. Le kiné, en tout cas en France, il est formé après 4 années et il passe un concours hein, d'entrée. L'ostéopathe, c'est après le baccalauréat, c'est 5 ou 6 ans.
Moi, j'ai une petite question. L'ostéopathie n'est pas une spécialisation de la kinésithérapie?
Non, du tout. C'est une pratique à part entière qui peut être pratiquée d'ailleurs par des kinésithérapeutes, mais par des ostéopathes qui sont exclusifs, mais par aussi des médecins, par exemple, qui peuvent être ostéopathes. Vous en avez un devant vous.
J'ignorais, voilà. Donc maintenant, dans votre présentation, je dirais médecin du sport, médecin de l'équipe et ostéopathe. Voilà. Bon, alors concrètement, quand est-ce qu'on va consulter un kiné et quand est-ce qu'on va consulter un ostéo?
Alors, étant donné que l'ostéopathie et la kinésithérapie sont complémentaires, on peut tout à fait solliciter ces deux professions. Alors, l'ostéopathe, généralement, on le consulte de manière beaucoup plus ponctuelle, alors que le kiné, il faudra y aller plusieurs fois, 10, 15 fois pour la même pathologie. Pour l'ostéopathe, il n'y a pas besoin de prescription médicale, parce que le spécialiste de thérapie manuelle va établir son diagnostic, va rechercher des zones de restriction, de mobilité, de dysfonctionnement, hein, c'est le terme qu'on utilise, et il va les corriger manuellement. Le kinésithérapeute, lui, vous allez pouvoir le voir pour rééduquer une zone anatomique particulière, par exemple la cheville, le genou, le dos, et puis il aura besoin d'une prescription médicale généralement de votre médecin généraliste.
Alors, au niveau de la pratique, là, c'est quoi la différence précisément entre ces deux approches justement de la rééducation et du corps?
En ostéopathie, généralement, on est passif, on fait rien hein, de spécial. C'est le praticien qui va vous bouger, vous positionner, qui va vous dire, voilà, il faut vous relâcher pour pouvoir adopter la bonne position qui va lui permettre d'appliquer sa technique et de vous traiter. Il va s'intéresser à des mécanismes globaux ou biomécaniques ou de posturologie, c'est-à-dire des mécanismes véritablement qui peuvent expliquer ces dysfonctions, ces restrictions de mobilité. Le kiné, lui, il va se concentrer surtout sur le système musculo-tendineux hein, ou articulaire. Et là, on peut avoir ou une action active ou une action passive. Le traitement actif, où le kinésithérapeute va vous demander de faire des mouvements hein, pour renforcer vos muscles, pour travailler votre équilibre, pour travailler votre mobilité, ou alors vous allez être totalement relâché, et là c'est le spécialiste kinésithérapeute qui, grâce à des étirements, des massages, des mobilisations articulaires, des ponçages des tendons, va agir sur vous. C'est un masseur kinésithérapeute, effectivement, donc il ne fait pas que masser, hein, quelquefois il y a véritablement une action qui est au-dessus de tout cela. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt à confronter ces deux professions, hein, quelquefois c'est le cas, il y a une confrontation d'école, alors que...
Il n'y a pas de concurrence?
Il n'y a absolument pas, c'est tout à fait complémentaire. Et c'est vrai qu'ils travaillent tous les deux sur la récupération du mouvement. Ce qui les distingue surtout, c'est les méthodes, les outils thérapeutiques qui vont être utilisés. On pourrait dire ostéopathe et kinésithérapeute, même combat.
Même combat et bon ménage. Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, la fabrique, la réalise. Ophélie Lassène, Juliette Brault, Stephen Hesley et Tiffany Manta. On va se retrouver demain avec l'équipe de Priorité Santé. Et d'ici là, bien sûr, lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunou Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce digitalement innovante. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix.